Radio Kapi. Le journal Jocelyne Moussa Oponde.
Affaire émolument des élus du peuple, le député national Jacques Joly propose au prochain bureau de l'Assemblée nationale de fixer l'opinion tout en appliquant la justice distributive. Jacques Joly est l'invité de ce journal. Conflit Tekeyaka, un acte d'engagement pour la paix a été signé entre les deux communautés. L'artiste musicien Innocent Baloumé s'associe au PAM pour plaider en faveur de la nutrition et de l'éducation en RDC. Cette collaboration intervient au moment où le pays est confronté à une forte insécurité alimentaire et à la malnutrition. Bonjour à tous. Polémique autour des émoluments des députés nationaux. Le député national Jacques Joly souhaite que le prochain bureau de l'Assemblée nationale puisse dire au peuple congolais combien gagne exactement un élu national. C'est là en tenant compte des salaires d'autres fonctionnaires pour prendre en compte les attentes de la population et appliquer la justice distributive. Le président de la commission spéciale chargée d'élaborer le règlement intérieur de la Chambre basse du Parlement, nouvellement voté, l'a dit hier au cours d'une interview exclusive à Radio Kapi. On écoute Jacques Joly au micro de Michel Kifindangoy.
Je crois que franchement, cette question de 21 000 dollars, encore maintenant des 33 000 dollars, détruit le fondement du fonctionnement, de la légitimité des institutions, plus précisément de l'institution qui assure la représentation du peuple. Et je veux que le prochain bureau puisse dire combien exactement touche un député et qu'il y ait, n'est-ce pas, le respect de cette tension salariale pour qu'on puisse prendre en compte les attentes réelles de la population, les missions réelles. Mais moi, personnellement, je sais que les émoluments du député sont payés d'abord en francs congolais. Avec la dévaluation, vous n'arrivez peut-être même pas à plus de 6 000 dollars à ce qui concerne les émoluments. Il faut qu'on arrête avec ces lynchages de 33 000 dollars. Donc, je crois que il est important que cette question fasse l'objet d'un débat transparent pour qu'on sache qui gagne combien dans la République, y compris les députés qui sont les représentants du peuple. Il faut qu'il y ait justice distributive, comme vous le dites, pour que nous puissions avoir la paix. Et c'est avec la paix que nous aurons le travail. Et s'il y a le travail, l'emploi, une des priorités du mandat actuel du chef de l'État.
Le député national Jacques Joly, je le dis, est l'invité de ce journal. La procédure initiée par le président du bureau provisoire de l'Assemblée nationale demandant à chaque député de remplir une fiche individuelle d'appartenance à la majorité ou à l'opposition ne contredit pas le travail de l'information. D'après le bureau de l'informateur qui annonce la clôture de la mission d'information confiée à Augustin Kabuya pour ce mercredi, la démarche initiée à l'Assemblée nationale est une procédure interne qui n'entache pas le travail constitutionnel de l'informateur consistant à identifier la majorité parlementaire en vue de la formation du gouvernement. Pour les députés nationaux Gary Sakata, cette procédure est conforme à l'article 20 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, même si demander aux députés de choisir leur camp indépendamment de leur parti n'est pas normal. On écoute Gary Sakata au micro de Michel Kifindangoy.
La démarche initiée par les bureaux provisoires est effectivement prévue dans le règlement intérieur en vigueur qui prévoit qu'en début de législature, que chaque parti ou regroupement puisse faire l'option entre la majorité et le pouvoir. Ce qui sonne mal plutôt dans la démarche initiée par les bureaux provisoires actuels, c'est que l'on demande aux députés de signer des fiches individuelles. Et cette démarche appartient aux partis politiques et aux regroupements politiques qui doivent faire le choix entre la majorité et l'opposition. Alors lorsque le bureau provisoire actuel demande individuellement aux députés de signer ces fiches, les dangers c'est que les gens appartenant à une même formation politique aient la liberté de choisir différemment la majorité ou l'opposition. Or, telle n'est pas l'idée. L'idée est que tout un parti politique, avec tous les députés, étant donné que le mandat appartient au parti politique ou au groupe politique, puisse faire un choix unique.
Conflit Teke-Yaka, les deux communautés réunies autour du vice-premier ministre de l'Intérieur ont adopté lundi un acte d'engagement pour la paix après 3 jours des travaux. Peter Kazadi l'a annoncé dans une vidéo sur son compte X. Dans cette vidéo, on voit aussi plusieurs notables des deux communautés déclarer avoir enterré la hache de guerre et fumé les calumets de la paix. La primeur de ces concertations est réservée au chef de l'État devant qui les deux communautés signeront cet acte d'engagement, a expliqué Peter Kazadi. On l'écoute dans cet extrait proposé par Alain Irung.
Nous avons tenu des réunions avec nos frères des deux communautés, Teke et Yaka, sur recommandation du chef de l'État. Aujourd'hui, nous venons d'adopter des documents importants. Il s'agit du rapport sur la manière dont nos réunions se sont déroulées, mais aussi un acte d'engagement souscrit par tout le monde, lequel acte d'engagement reprend des décisions que les deux parties ont prises, notamment la cessation des hostilités et le retour de la paix à Kwamout, dans les Kwilu, et puis Kinshasa et le Congo central, partout où la paix publique a été troublée. Et vous l'avez constaté, c'est à l'unanimité que toutes ces décisions ont été prises. Ça, ce n'est qu'une partie, mais l'ensemble de l'accord trouvé sera présenté au chef de l'État qui doit en prendre connaissance avant toute la nation. Et les parties procéderont à la signature solennelle devant les chefs de l'État.
Notez que ces assises ont réuni près de 200 personnes, parmi lesquelles les chefs coutumiers Teke et Yaka, ainsi que les notables de ces deux communautés, les représentants de la présidence de la République, ainsi que les représentants des provinces affectées par ce conflit. Pour rappel, le conflit opposant les communautés Teke et Yaka dans le territoire de Kwamout, dans la province du Maïndombe, autour des droits fonciers, a dégénéré depuis 2022. Il a embrasé toute la province de l'ex-Grand Bandundu et la périphérie de Kinshasa, causant plusieurs pertes en vies humaines ainsi que des milliers de déplacés. Au Nord Kivu, des combats opposant les rebelles du M23 aux groupes armés locaux ont été signalés hier mardi depuis la matinée près de la localité des Biboué, et c'est dans le groupement Bachali Mokoto, territoire de Massissi. Selon des sources civiles dans la zone, les rebelles du M23 auraient avancé et occupé le village Nyangé à 10 km des Biboué centre. Nos sources ne livrent aucun bilan de ces affrontements. Toutefois, cette situation accroît la menace sur les villages Lukweti, territoire de Massissi, et le groupement Kisimba, territoire de Walikale. Par ailleurs, nos sources parlent d'une accalmie précaire jusque hier mardi sur l'axe Kibumba-Burumba, territoire de Nirangongo, et autour de la cité de Sake, territoire de Massissi. Ces axes ont aussi été le théâtre d'affrontements le week-end dernier. Nord Kivu encore, depuis quelques jours, les rebelles des ADF ont multiplié les attaques dans les quartiers périphériques de la ville de Beni. La dernière attaque remonte au week-end dernier dans le quartier Sayo de la commune Moulekera, à une quinzaine de kilomètres du centre de la ville de Beni. Jusqu'à hier mardi matin, au moins 22 corps des civils ont été retrouvés dans la zone. Une situation qui inquiète les organisations des défenses des droits de l'homme et la société civile locale, qui rappelle que cela faisait plus d'une année que la ville de Beni n'avait plus été la cible des attaques des ADF. Martial Papimoukeba pour les détails.
L'ONG locale Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, parle des 8 attaques des rebelles des ADF qui ont visé la ville de Beni depuis le début de ce mois. Eli Kionga est son chargé de monitoring.
Du 1er au 24 mars 2024, plus de 8 attaques ont visé la ville de Beni, généralement la commune Moulekera. Des dizaines de personnes ont été sauvagement tuées et plusieurs entre porteurs disparus, sans oublier le pillage de cacao et entre biais de valeur.
Le capitaine Anthony Mwalouchai, porte-parole des opérations Sokola 1, parle des actes de représailles des ADF.
Les quelques attaques des terroristes MTM aux alentours de la ville de Beni se justifient par la perte enregistrée au sein de ces mouvements djihadistes du côté combattant actif, mais aussi par l'arrestation de plusieurs collaborateurs de ces mouvements dans la ville de Butembo, mais aussi dans plusieurs agglomérations.
Pour protéger la population, population, les FRDC et la MONUSCO viennent de renforcer leur patrouille autour et dans la ville de Beni. Beni, Martial Papimukeba, Radio Okapi.
Dans la province du Maniema, certains agents des services de sécurité au niveau des barrières dans les territoires de Pangui sont accusés d'être auteurs des arrestations arbitraires et tortures à l'endroit de la population. C'est le coordonnateur de l'ONG Agir pour la reconstruction de notre espace et la convivialité, Agirec Maniema, qui dénonce cette situation. Il fustige aussi ce qu'il qualifie de silence et d'inaction des autorités provinciales face à ces tracasseries à répétition dont la population est victime. Ramazani Alimassi Samuel a été joint par Florence Kizalunga.
Nous avons dénoncé à plusieurs reprises ici la flambée des prix des biens de première nécessité, des denrées alimentaires et la tracasserie à outrance aux barrières de Kingombe, Kinkungwa et Lubile dans le territoire de Pangi par les militaires des services de sécurité au détriment de la population. Ce 24 mars 2024, vers 20 heures passées, un gardien de coutume légue du dernier rang habitant au village Kamundala serait arrêté arbitrairement, torturé avec des plaies jusqu'à la tête par des agents de service de sécurité militaire à la barrière de Kinkung. La victime est hospitalisée au centre de santé de référence de Kinkung où il y reçoit les soins jusqu'à maintenant. Et ses adeptes par colère font plusieurs casses au moment où Late Pangi, en date du 30 décembre par sa lettre numéro 109/2023, a autorisé seulement les services de la DGRMA, Transcom et TD et DGM d'être aux barrières, mais les autres ont bafoué la décision du représentant du gouverneur de la province du Maniema.
Nous n'avons pas réussi à joindre les autorités militaires pour avoir leur version des faits. Contentieux des résultats des élections législatives nationales, 110 requêtes ont été réceptionnées par le greffe de la Cour constitutionnelle jusque vendredi de la semaine dernière. C'est en contestation de la publication des résultats définitifs par cette Cour. Ces recours s'effondrent sur la jurisprudence de cette même Cour sur la correction des erreurs matérielles après les scrutins de 2018. À cette époque, feu le président de la Cour, Benoît Luamba, avait institué une chambre spéciale pour statuer sur les erreurs matérielles. Les requérants espèrent trouver gain de cause à travers cette jurisprudence pour corriger ce qu'ils qualifient d'erreurs matérielles lors de l'examen des contentieux électoraux législatifs du 20 novembre 2023. Nous apprenons que le président de cette institution a ordonné la fin de réception de ces requêtes au greffe et qu'il va incessamment se pencher sur toutes ces demandes pour décider s'il y a lieu d'instituer une telle chambre. Retour au Nord Kivu, où les flous planent toujours à la haute cour militaire siégeant en chambre foraine à Goma sur la provenance de la somme de 15 millions de francs congolais et qui aurait été destinée à corrompre la délégation de l'inspection générale des FRDC en mission à Goma en 2022. Et ce, en dépit de l'insistance de l'organe d'accusation qui pointe du doigt le principal accusé dans cette affaire, à savoir le chef du bureau rémunération de la 34e région militaire. Le point avec Gabriel Omenia.
Il n'y a toujours pas d'éclaircie dans l'affaire du détournement et des tentatives de corruption en cours d'instruction à la haute cour militaire. Au cours de l'audience de ce mardi, la haute cour a confronté les trois renseignants, parmi eux les directeurs en charge de l'administration et des capitaines, tous de la 34e région militaire, au principal accusé, le lieutenant-colonel Katengo Géry. Dans son interrogation au prévenu, l'organe d'accusation voulait comprendre devant les juges la provenance de la somme des 15 millions de francs congolais remises à la commission de l'IG en 2022. À cette question, on a relevé un tâtonnement ambigu. Le principal accusé, le lieutenant-colonel Katengu Géry, a nié l'authenticité du décharge reprenant la somme de 15 millions de francs congolais. C'est avant de reconnaître sa signature posée sur l'acte de reconnaissance par lequel cet argent a été remis à la délégation venue de Kinshasa. Dans leur déposition, les deux capitaines ont déclaré devant la haute cour qu'ils ne savaient rien de la provenance de cet argent à problème alors qu'ils ont été pleinement cités dans les rôles d'entremise de ces 15 millions de francs congolais à la délégation de l'IG. L'audience a été suspendue pour reprendre demain mercredi.
Je l'ai dit dans les titres, l'artiste musicien Innocent Baloumé, connu sous le sobriquet d'Innocent B, vient d'être accueilli par le Programme alimentaire mondial des Nations Unies, PAM, en tant que soutien de haut niveau pour la promotion de repas sains et d'une meilleure nutrition en République démocratique du Congo. Cette collaboration intervient à un moment crucial où le pays est confronté à une forte insécurité alimentaire et à la malnutrition, d'après le communiqué du PAM du 26 mars. Gisèle Cage.
Grâce à ce partenariat, le PAM entend tirer parti de l'influence d'Innocent B auprès des jeunes pour les sensibiliser à l'importance d'une alimentation saine, des repas scolaires et des stratégies de lutte contre la malnutrition dans le pays. Depuis notre première rencontre il y a 14 ans à Goma, je suis très fier de voir tout ce qu'il a accompli en tant qu'artiste et humanitaire. Je suis ravi de l'accueillir dans l'équipe du PAM. Avec Innocent B à bord, nous pouvons avoir un impact réel dans la lutte contre la faim et la malnutrition en RDC, a déclaré la directrice exécutive du PAM, Cindy McKen. Alors que le PAM poursuit ses efforts pour améliorer la sécurité alimentaire, la collaboration avec Innocent B ajoute une voix vibrante et influente à la campagne, ajoute le PAM dans son communiqué. Cependant, l'organisation insiste sur le besoin permanent de financement confronté à un déficit budgétaire de 548,5 millions de dollars au cours de 6 prochains mois pour répondre aux demandes humanitaires constantes dans le pays.
Actualité internationale.
Au Mali, le gouverneur du district de Bamako a officiellement interdit toutes les activités de cette coalition d'opposition. Dans un document signé le 25 mars par le gouverneur, les autorités maliennes de transition invoquent le texte sécuritaire et de risque de menace de trouble à l'ordre public, un abus total de droit, selon un avocat malien joint par RFI qui livre cette information. Ils ont peur, mais nous sommes déterminés, commente un dirigeant de la synergie d'action pour le Mali.
L'invité.
Le règlement intérieur de l'Assemblée nationale nouvellement voté suscite des inquiétudes et plusieurs spéculations, notamment en ce qui concerne la couverture médiatique des séances plénières, mais aussi les émoluments des députés. Pour en parler, Radio Okapi reçoit le président de la commission spéciale ayant élaboré ce texte aujourd'hui et sous examen au niveau de la Cour constitutionnelle. Le député national Jacques Joly s'entretient avec Michel Kifindangoy.
Professeur Jacques Joly, bonjour.
Bonjour Monsieur Michel Kifindangoy.
L'Assemblée nationale a voté le règlement intérieur nouvellement révisé. Comment réagissez-vous à ceux qui pensent que prendre 30 jours pour réviser un règlement intérieur qui n'avait pas beaucoup de modifications à y apporter est une façon de gaspiller les fonds de la République?
D'abord, sur le fonds de la République, je voudrais rassurer l'opinion. Les députés, au moins 90 députés qui ont été choisis par leurs collègues pour rédiger ce règlement ont travaillé dans un esprit de patriotisme. Ils n'avaient même pas de l'eau, même pas de pause café. Ils ont travaillé dans des conditions difficiles. Donc, de ces côtés-là, nous pouvons rassurer l'opinion. Et deuxièmement, pour ceux qui disent que nous avons pris 30 jours, mais 30 jours pour rédiger 290 articles n'est pas facile.
Ce nouveau instrument juridique devant régir le fonctionnement de l'Assemblée nationale suscite des protestations, notamment des journalistes parlementaires qui pensent que vous avez introduit dans ces règlements des dispositions liberticides. Comment réagissez-vous?
Ça aussi, c'est une idée qui est véhiculée, mais qui ne traduit pas la réalité. L'article 288, qui fait partie du titre relatif au maintien de l'ordre, aborde plutôt la question de la circulation dans l'espace réservé aux députés, là où s'assoient les députés. Et là, ne circulent que les agents du Parlement, limitativement énumérés. Et sur cet espace, nous avons dit, on peut accepter les agents de la chaîne officielle qui prennent les images.
Ne trouvez-vous pas que limiter l'accès à la prise d'images au cours de la plénière à seule la RTNC est une façon de faire reculer davantage le pays qui avance beaucoup mieux sur le chemin de la démocratie.
Il n'est nullement question d'une approche liberticide, parce que parmi les critères d'évaluation de la gouvernance parlementaire, il y a la question de la participation populaire, il y a la question de relations entre le Parlement et les électeurs, et à travers notamment la presse. Et nous sommes très sensibles sur cette question qui a fait l'objet du premier point d'orientation dans l'écriture, à savoir la qualité du représentant du peuple que les députés.
Qu'en est-il des émoluments des députés nationaux? Certaines opinions pensent que les émoluments sont passés de 21 à 33 000 dollars le mois, alors que les militaires continuent à toucher moins de 200 dollars, les enseignants aussi moins de 200 dollars dans un pays en guerre où l'éducation pose des sérieux problèmes de réforme. Dites-nous, professeur, comment comptez-vous faire à travers cette nouvelle Assemblée nationale pour que la justice distributive de 10 à 100% d'écart salarial soit respectée comme sous d'autres cieux?
D'abord, je voudrais vous dire que les règlements intérieurs de l'Assemblée, moins encore la commission chargée d'élaborer ces règlements, ont la mission de fixer les émoluments des députés. Moi, je crois que, franchement, cette question de 21 000 dollars, encore maintenant des 33 000 dollars, détruit le fondement du fonctionnement, de la légitimité des institutions, plus précisément de l'institution qui assure la représentation du peuple. Et je veux que le prochain bureau puisse dire combien exactement touche un député, et qu'il y ait, n'est-ce pas, le respect de cette tension salariale pour qu'on puisse prendre en compte les attentes réelles de la population, les missions réelles. Mais moi, personnellement, je sais que les émoluments du député sont payés d'abord en francs congolais. Avec la dévaluation, vous n'arrivez peut-être même pas à plus de 6 000 dollars à ce qui concerne les émoluments. Il faut qu'on arrête avec ces lynchages de 33 000 dollars.
Professeur Jacques Joly, je vous remercie.
Ainsi s'achève ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi.